Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la sainte sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 5 Tir, 1401 du calendrier iranien, 26 juin 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Doha, au Qatar, pourrait accueillir de nouvelles discussions sur la suppression des sanctions anti-iraniennes. La récente résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'obligera pas l'Iran à revenir sur sa position dans les pourparlers, a déclaré le président Raïsi. Les groupes de résistance rejettent le projet de créer une alliance régionale anti-iranienne. Et la prochaine visite de Biden dans la région vise à saper la lutte palestinienne contre l'occupation israélienne, a déclaré Ismaïl Haniyeh. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien a critiqué une récente résolution anti-iranienne du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, affirmant que cette mesure n'obligera pas la République islamique d'Iran à revenir sur sa position dans les pourparlers de Vienne. Dans une interview télévisée, Ebrahim Raïsi a déclaré que la résolution inappropriée avait été proposée alors que l'Iran était au milieu des pourparlers de relance de l'accord nucléaire et coopérait pleinement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces remarques sont intervenues peu de temps après que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, se sont rencontrés à Téhéran et ont annoncé que les pourparlers sur la relance de l'accord de 2015 reprendraient dans les prochains jours. Nour News, qui est affilié au Conseil de sécurité nationale iranienne, a indiqué que le prochain cycle des pourparlers se tiendrait probablement à Doha, capitale du Qatar. Le commentaire d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Les mouvements de résistance réagissent au projet israélien de créer une alliance régionale contre l'Iran. Le Hezbollah libanais a rejeté les revendications sur la formation d'une telle alliance comme une menace creuse. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a déclaré que le groupe n'attachait aucune importance à ce projet, mais restait vigilant pour répondre aux menaces probables. Le cheikh Naïm Rassem a pointé du doigt les pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec le régime israélien, disant que c'est une honte pour eux de vouloir former une coalition militaire avec Tel Aviv. Le mouvement de résistance palestinien, Hamas, a également affirmé que le nouveau plan israélien est bien plus dangereux que la normalisation des liens de certains pays arabes avec le régime d'occupation. Vendredi, le roi Abdallah de Jordanie a déclaré qu'il soutenait la formation d'une alliance au Moyen-Orient similaire à l'OTAN dirigée par l'Occident. Un haut responsable de la résistance palestinienne avertit qu'une prochaine visite du président américain Joe Biden dans la région vise à saper la lutte palestinienne contre l'occupation israélienne. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a déclaré que cette visite faisait également partie des efforts visant à accroître l'influence d'Israël. Joe Biden se rendra en Palestine occupée à la mi-juillet et de là, il s'envolera directement pour l'Arabie saoudite. Ismaïl Haniyeh a en outre appelé à l'unité et à l'intégration de tous les fronts de résistance pour contrer l'infiltration israélienne. Il a mis en garde contre les complots américains et israéliens pour les réalignements régionaux qui vont au-delà des accords de normalisation avec certains pays arabes. Ismaïl Haniyeh a estimé que cela impliquait l'inclusion d'Israéliens dans les coalitions militaires et de sécurité régionale pour contrer le front de résistance en Palestine et dans toute la région. La Russie frappe à nouveau Kiev avec des missiles après une accalmie de 3 semaines dans les bombardements. 4 explosions ont secoué la ville aux premières heures du matin. Au moins 5 personnes ont été blessées. Le maire de Kiev a déclaré qu'une opération de sauvetage était en cours pour évacuer les habitants d'un complexe d'habitation qui était la cible de l'attaque. La dernière attaque russe contre la capitale survient un jour après que son armée a pris le contrôle de Severodonetsk. Le centre industriel clé a été le théâtre d'une bataille acharnée pendant des semaines avant que l'armée ukrainienne ne retire finalement ses forces. Alors que la guerre entre dans son 5e mois, la prise de Severodonetsk dans la région assiégée de Donbass marque une importante victoire stratégique pour Moscou. Entre-temps, l'Ukraine a demandé aux pays occidentaux de lui fournir plus d'armes lourdes pour pouvoir faire face à l'offensive russe. Les dirigeants des pays du G7 ont donné le ton de leur sommet qui a débuté dimanche dans le sud de l'Allemagne et sera largement consacré à la guerre en Ukraine en annonçant élargir les sanctions contre Moscou à l'importation d'or russe. C'est le premier signal de soutien à l'Ukraine de la réunion qui débute formellement à la mi-journée dans les Alpes bavaroises où le président américain Joe Biden a atterri samedi soir. Les grandes puissances du G7 qui cherchent à intensifier la pression sur Moscou après 4 mois d'invasion de l'Ukraine ont annoncé dimanche, au premier jour de leur sommet, leur intention de bannir les importations d'or russe coupé du crucial marché londonien. 90% des exportations d'or russe sont dirigées vers des pays du G7 et en très grande partie vers la Grande-Bretagne, Londres, abritant le principal centre financier d'échange de matières premières, dont les métaux. Une vague de grève dans les compagnies aériennes frappe l'Europe au milieu d'une agitation ouvrière généralisée à travers le continent. En Espagne, 75 vols ont été annulés au départ ou à l'arrivée, a indiqué en début de soirée le syndicat USO, et des retards ont été enregistrés sur une quinzaine de vols de la compagnie irlandaise. mais la situation risque de s'aggraver durant le week-end, selon le syndicat, car le système de profit maximum de Ryanair, de laisser le minimum de temps entre les vols, va créer des retards en chaîne. En France, où la grève est prévue sur les deux jours du week-end, 36 vols ont été annulés samedi sur les 80 exploités normalement par Ryanair avec du personnel français, selon le syndicat national, des personnels navigants commerciaux qui avaient appelé au mouvement les quelques 300 hôtesses et soirs de la compagnie en France. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. L'agence de presse iranienne Nour News, affiliée au Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, a déclaré qu'une nouvelle série de pourparlers sur la levée des sanctions anti-iraniennes devrait avoir lieu dans la capitale qatarie, Doha. Nour News en a fait l'annonce dimanche dans un tweet au lendemain d'une rencontre avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell. Le haut diplomate de l'Union européenne s'est rendu à Téhéran pour mener des négociations avec les hauts responsables du pays dans le cadre des efforts visant à reprendre les pourparlers de Vienne bloqués sur le sort de l'accord iranien de 2015. Après la visite de Borrell à Téhéran, tout le monde garde un œil sur la date et le lieu des négociations à venir et sur la manière dont elles vont se dérouler. Joseph Borrell avait déclaré que les pourparlers n'auraient pas lieu à Vienne. Sur la base des nouvelles reçues par Nour News, Doha a de meilleures chances d'accueillir les pourparlers à venir, étant donné les efforts continus du Qatar à cet égard. Lors d'une réunion avec Borrell samedi, Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, a fustigé l'inaction de l'Europe et le manque d'engagement des États-Unis vis-à-vis de leurs obligations conformément à l'accord de 2015, affirmant que Téhéran prévoyait de poursuivre ses mesures nucléaires coercitives jusqu'à ce que l'Occident modifie son approche illégale. Shamkhani a souligné que la levée des sanctions illégales et la réalisation pleine et durable des avantages économiques de l'accord de 2015 sont les principaux objectifs de l'Iran en s'engageant dans les pourparlers avec le groupe 4+1 dans la capitale autrichienne, Vienne. Joseph Borrell, pour sa part, a déclaré que la possible relance de l'accord nucléaire dans les circonstances mondiales actuelles peut être considérée comme une réalisation de sécurité très importante dans le système international. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré plus tôt dans la journée que Téhéran était prêt à reprendre les pourparlers bloqués avec le groupe 4+1 à Vienne pour relancer l'accord de 2015. « Nous sommes prêts à reprendre les pourparlers de Vienne dans les prochains jours », a déclaré Amir Abdollahian, sans fournir de détails sur le jour et le lieu exact des négociations de haut niveau. Des négociations se tiennent dans la capitale autrichienne depuis avril de l'année dernière pour rétablir l'accord nucléaire de 2015 qui a été abandonné par l'ancien président américain Donald Trump en mai 2018.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 25 juin 2022. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé mercredi soir à Téhéran pour effectuer une visite officielle et s'entretenir avec les hauts responsables iraniens, dont le président Ebrahim Raisi et son homologue, Hossein Amir Abdollahian, et discuter des questions bilatérales, régionales et internationales. Il s'agissait de la première visite du ministre russe des Affaires étrangères en Iran depuis l'entrée en fonction du président Ebrahim Raisi. Cette visite intervient au moment où le monde connaît de nombreuses crises économiques et énergétiques et bien sûr au menu des discussions. Alors, le développement des relations, de la coopération économico-commerciale, mais aussi de la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, les dossiers régionaux, entre autres la Syrie, étaient également au menu des discussions des deux parties. Selon de nombreux observateurs, cette visite ouvre un nouveau chapitre dans les relations Téhéran-Moscou. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de cette visite de M. Lavrov à Téhéran et bien entendu la perspective de la coopération entre les deux pays dans les domaines économiques et politiques, mais aussi dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le chef de la diplomatie russe s'est rendu mercredi soir à Téhéran pour s'entretenir avec les autorités du pays, parmi lesquels son homologue iranien. À la veille de son voyage, les médias occidentaux ont commencé leurs spéculations sur des motifs de ce déplacement. Le média des démocrates, la CNN, croit que les Russes se tournent vers un allié de confiance, qui est la République islamique d'Iran, pour savoir comment contourner un déluge des sanctions occidentales. Sans oublier le fait que de telles visites pourront donner un coup d'accélérateur aux accords de coopération, poursuivis notamment dans le gouvernement de Raïssi, entre les deux pays. Al-Arabiya Al-Jadid vient de rapporter que l'un des objectifs de la visite de Lavrov en Iran était de favoriser l'élargissement de la coopération Téhéran-Moscou dans le sens de la lutte contre les sanctions américaines. Le média arabe, basé à Londres, déclare que les responsables des deux pays avaient récemment eu de nombreuses rencontres publiques et à huis clos. En référence à des sources d'information iraniennes, Al-Arabi Al-Jadid rapporte que Lavrov rencontrerait le président Ebrahim Raisi, Amir Abdollahian et d'autres responsables iraniens. Les sources, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont souligné que lors de sa visite à Téhéran, Lavrov discuterait de la coopération réciproque dans les affaires régionales et internationales, y compris les évolutions concernant le dossier nucléaire iranien, de même que la situation prévalant en Syrie. La visite de Lavrov à Téhéran est en effet sa première visite en Iran depuis l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim Raisi. La dernière visite de Lavrov remonte à plus d'un an, où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Certes, cette dernière visite se fait dans un moment où le monde connaît de nombreuses crises économiques et énergétiques, relevant des développements régionaux et internationaux, en particulier la guerre en Ukraine. L'incapacité et la faiblesse de Joe Biden a décidé d'aller au-delà de la politique ratée de la campagne de pression maximale contre l'Iran ont également abouti à une longue pause dans les négociations sur la levée des sanctions. Par conséquent, on peut dire que les sanctions occidentales contre l'Iran et la Russie ont ouvert un nouveau chapitre dans la coopération des deux pays.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette édition du débat. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Vaucluse avec Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue. Monsieur Cornu, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et à Monsieur Luc Michel.
Monsieur Cornu, alors, comme vous le savez, le chef de la diplomatie russe s'est rendu pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Raisi à Téhéran mercredi soir. Il a eu des entretiens avec les hauts responsables iraniens, bien sûr des affaires régionales et internationales, entre autres la situation en Syrie, la crise en Ukraine, mais aussi la coopération économique bilatérale était au menu des discussions des deux parties. Alors, au moment où le monde est confronté, en effet, à de nombreuses crises, où les deux pays notamment sont soumis à des sanctions occidentales, en l'occurrence américaines, quel premier regard portez-vous sur l'importance de cette visite, la visite de M. Lavrov à Téhéran?
C'est une visite très importante et très positive, puisqu'il apparaît que la plupart des grands enjeux seront évoqués, la coopération régionale. L'Iran et la Russie partagent des côtes de la mer Caspienne, qui est un centre de production de pétrole et de gaz depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, et aussi les enjeux régionaux sur la Syrie pour trouver une issue favorable à toutes les combats, à toutes les envahissements de parties de la Syrie par la Turquie, sous le prétexte de protéger sa frontière contre des infiltrations, contre la présence organisée mais trop longue et mal gérée d'anciens mercenaires combattants qui ont été regroupés dans cette région, dans la province d'Idlib, suite à des accords locaux chaque fois, arrangés par la Russie avec l'accord de la Syrie. Et aussi, comme deux pays lourdement frappés par des sanctions plus ou moins légitimes et souvent même illégales, ces pays doivent réagir pour trouver des solutions positives, pour contourner ces sanctions et surtout pour montrer qu'elles sont vaines, qu'elles sont non seulement injustes, mais qu'elles affaiblissent en fait l'Europe parce qu'elles renchérissent les achats de gaz et de pétrole pour toute l'Europe. Et bientôt, nous allons entrer dans l'automne et ensuite la saison, donc où il y aura beaucoup de consommation. Donc il est urgent de trouver des solutions positives pour montrer que ces sanctions, non seulement sont inefficaces, mais elles sont nocives pour toutes les parties. Et donc il faut trouver des voies pour relancer la diplomatie plutôt que jouer avec les bâtons que sont les sanctions.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre équipe et à Monsieur Cornu. L'alliance stratégique entre l'Iran et la Russie, elle est fondamentale parce qu'elle est multidimensionnelle. Ce sont deux partenaires qui se font confiance. Il y a le volet militaire qui fait que rapidement l'OCDE, l'Organisation de coopération de Shanghai, va se transformer en contre-OTAN, plus seulement l'OTCS en son sein, mais toute l'alliance. Deuxièmement, il y a le partenariat géo-économique qui est encore renforcé par la lutte contre les sanctions. Et on voit que, fort de l'expérience de l'Iran et du Venezuela, la Russie a tendance à fédérer les États sous sanctions, comme on l'a vu récemment avec la visite de Maduro en Iran. Et enfin, il y a évidemment dans le domaine de la guerre du gaz et des hydrocarbures, il y a une alliance fondamentale. Les Américains disent que Téhéran, c'est l'épée géopolitique de la Russie dans cette guerre. Et effectivement, si l'Iran avait accepté de remplacer la Russie comme fournisseur des Européens, il aurait diminué l'emprise de ceux-ci sur le marché gazier pétrolier européen. Mais l'Iran a refusé de le faire et a laissé ce marché aux mains de la Russie en échange d'alliances stratégiques fournies par Moscou. Voilà tout ce qu'il faut retenir de cela. Lorsque j'avais annoncé cette alliance en 2015, il y avait beaucoup de sceptiques. On m'avait opposé les divergences idéologiques qui existaient entre Téhéran et Moscou. Vous savez qu'actuellement, il y a deux visions de la géopolitique. Il y a la vision géopolitique occidentale, qui est celle notamment de l'administration Biden, qui fait prédominer l'idéologie, les positions idéologiques de la géopolitique. Par exemple, Biden divise le monde en démocratie libérale et en autocratie illibérale. Dans cette fausse analyse, des gens comme Orban ou comme Donald Trump, ils se retrouvent aux côtés de Xi Jinping, aux côtés de Vladimir Poutine ou aux côtés de l'Iran. C'est une fausse vision, évidemment. À Pékin, à Moscou et à Téhéran, on pratique une géopolitique classique. C'est-à-dire qu'on oppose de vieux empires continentaux, l'Iran, qui est l'héritière de la Perse qui existe depuis 25 siècles, la Russie, qui est la troisième Rome, l'héritière de Rome, qui existe depuis 27 siècles, et la Chine, qui existe aussi depuis 25 siècles, on l'oppose à des jeunes puissances talacrocratiques, jadis la Grande-Bretagne, aujourd'hui les États-Unis, sans grande histoire. Et quand vous regardez l'affrontement stratégique entre l'axe de l'Eurasie et le bloc américain occidental, vous voyez que le bloc américain occidental, il est structuré sur des puissances maritimes, le Japon, l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc. Tandis que l'Eurasie est structurée sur de vieilles puissances continentales et l'Afrique à laquelle l'organisation de coopération de Shanghai tend la main, c'est également l'existence de vieux empires. Qu'on se souvienne du Mali qui, aux alentours de l'an 1000, était l'État le plus avancé que les États musulmans et que les États européens. Et le Mali, justement, était à cette époque une puissance qui était détruite par le colonialisme. C'est cela qu'il faut retenir. Donc, Téhéran et Moscou, main dans la main, ils sont en train d'imposer une nouvelle vision de la géopolitique mondiale.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, M. Michel. Monsieur Cornu, alors, Monsieur Michel l'a rappelé, il s'agit donc entre Téhéran et Moscou d'une coopération multidimensionnelle, d'un partenariat stratégique. Alors, dans cette logique de confrontation entre ces deux visions de géopolitique dont parlait tout à l'heure Monsieur Michel, comment cette visite de Monsieur Lavrov est perçue dans les milieux politiques et médiatiques occidentaux, dans le contexte des évolutions actuelles de la région, voire du monde, notamment sur fond de crise en Ukraine?
Les Européens ont voulu essayer de réduire leurs achats de gaz, de pétrole et de gaz aussi, de la Russie, puisque ce gaz alimente les caisses financières de la Russie, donc la guerre. Et les Européens veulent freiner, arrêter, certains même arrêter cette guerre. Mais les restrictions font monter les prix. Donc on voit bien que ce n'est pas une solution. Et il faut rappeler ici que pour les réserves mondiales de gaz, la Russie est numéro 1 avec 21% des réserves. L'Iran est numéro 2 avec 17% des réserves et sans doute le gaz le moins cher à produire du monde et encore peu exploité à cause des sanctions américaines illégales qui sont faites à la demande en fait de l'État d'Israël qui veut tout le temps agiter des menaces pour appeler à l'aide les grandes puissances et puis déformer la réalité, faire oublier sa propre occupation des territoires palestiniens. Et le troisième pays de réserve est le petit Qatar, qui l'exploite depuis longtemps sous forme de gaz liquéfié, qui est exporté vers l'Europe et vers aussi de plus en plus vers l'Asie. Donc ces trois pays font plus de 50% des réserves mondiales. Et donc pour ce marché du gaz, il est essentiel que au moins la Russie et l'Iran s'entendent et qu'ils tentent de se rapprocher des positions du Qatar, qui est très sollicité actuellement pour vendre un peu plus de gaz liquéfié, mais les contrats sont déjà pris, sont à long terme, on ne peut pas augmenter la production très rapidement. Donc en fait, l'Iran, ici, avec toutes ses réserves encore peu exploitées, son gaz pas cher, est une opportunité intéressante que sans doute la Russie va vouloir contribuer de développer. Comme vous savez, les sanctions ont fait partir la société Total qui avait signé un grand contrat. La situation en Ukraine fait que l'autre société française, Engie et Total, se sont rapprochés du Qatar. Donc il y a tout un des mouvements profonds. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, au lieu que ça soit passif, il faut que la Russie et l'Iran reprennent l'initiative dans ce marché mondial du gaz. Et je pense que ce sera un des sujets à discuter. Bien sûr, c'est du moyen terme, c'est du long terme, mais c'est essentiel comme signal pour démontrer aux Européens, aux Américains, que toutes ces sanctions sont inefficaces, ont des effets très négatifs, notamment aussi pour la politique climatique mondiale, puisque utiliser du gaz liquéfié, ça fait beaucoup plus d'effets d'émissions de CO2 et de coûts aussi que l'utilisation du gaz naturel transporté par gazoduc.
Merci encore, M. Cornu. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Michel, dans quelle mesure ce nouveau chapitre dans les relations entre Téhéran et Moscou pourrait non seulement contribuer à contrer les sanctions illégales, injustes et unilatérales des pays occidentaux, mais aussi, comme disait M. Cornu, à permettre à la Russie et à l'Iran de reprendre l'initiative sur le marché, notamment mondial, du gaz et de l'énergie?
Les sanctions, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. Les mécanismes d'évitement, mais c'est un phénomène marginal. La véritable chose qui est au cœur de la crise ukrainienne, c'est la guerre des hydrocarbures. Mais contrairement à ce que racontent les Américains et les Occidentaux, la guerre des hydrocarbures, qui comprend deux volets, la guerre du gaz et la guerre du pétrole, elle n'a pas commencé il y a 100 jours avec la crise ukrainienne. Elle a commencé en septembre 2015, lorsque les Américains, avec la production des hydrocarbures de schiste, sont devenus les dominants du marché du gaz et du pétrole. Depuis, la Russie, avec l'aide de l'Iran, elle continue à combattre cela. Le principal volet, c'est la guerre du gaz. En juillet 2019, la Russie a organisé l'Union des États producteurs de gaz. Le premier sommet a été organisé en Guinée équatoriale, à Malabo, qui est un État pétro-gazier modèle et dont la régie d'État a pour actionnaire Gazprom. Là-bas, il y avait les Iraniens, les Vénézuéliens, les Algériens, les Sénégalais et également d'autres puissances. Ces gens se sont organisés. Quel est le but de ce qu'on appelle vulgairement l'OPEP du gaz? C'est de reprendre le contrôle du marché du gaz aux Américains et de déterminer le prix du mètre cube de gaz, en sachant que tous ces pays produisent un gaz de bonne qualité, tandis que le gaz de schiste américain est de mauvaise qualité. Il pénalise durablement les sols pour plusieurs siècles en matière écologique, parce que la technique d'extraction qu'on appelle fractale détruit le sous-sol. Et enfin, ce gaz américain, il coûte 300 fois plus cher que les autres gaz. Le deuxième volet, c'est la guerre du pétrole, c'est-à-dire que la Russie s'est rapprochée de l'Arabie saoudite et elle a amené ses alliés dans l'OPEP, notamment de nouveau la Guinée équatoriale, qui est membre de l'OPEP depuis 2 ans. Aujourd'hui, évidemment, les Saoudiens ne sont plus du côté américain. Ils ont refusé d'augmenter la production et ils tiennent du côté du bloc de l'Est. Il y a eu le second sommet à Doha, il y a quelques semaines, des États producteurs de gaz. Cette fois-là, il y avait les Émiratis et les Qataris en plus. Et à la grande surprise des Américains, ils ont basculé du côté du bloc de l'Est. Ils ont refusé d'augmenter la production et de supplier la Russie pour fournir les États-Unis et surtout les Européens. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils ont parfaitement compris que le but des Américains en contrôlant le marché du gaz, comme en contrôlant le marché du pétrole, c'était de ruiner les États classiques producteurs. Les Qataris et les Émiratis savent qu'ils ont encore une quarantaine d'années à bénéficier de la richesse de la production d'hydrocarbures et ils ne veulent pas être les dindons de la face des calculs stratégiques des Américains. Voilà donc le rôle moteur de Téhéran et de Moscou dans cette affaire, c'est le rôle moteur dans la guerre des hydrocarbures. Et comme les Américains l'ont expliqué, je l'ai dit il y a quelques minutes, il y a des études qui sont sorties aux États-Unis, ils expliquent que ce qui a permis à Moscou de contre-attaquer et pour le moment d'être victorieux dans la guerre des hydrocarbures, c'est l'alliance avec l'Iran. Si l'Iran avait accepté de remplacer la Russie pour fournir les Occidentaux, c'est-à-dire de faire de l'argent immédiat, mais d'être perdant à long terme, évidemment, les choses ne seraient pas passées comme telles. Les Américains ont raison de dire que l'Iran, c'est dans le domaine de la guerre des hydrocarbures, l'épée géopolitique de Moscou.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Cornu. M. Cornu, alors, dans cette guerre des hydrocarbures, dans quelle mesure cette alliance entre l'Iran, la Russie, sans oublier bien entendu la Chine, pourra contrebalancer en quelque sorte les équations au détriment bien entendu des États-Unis. En d'autres termes, comment les sanctions injustes américaines pourront se retourner contre eux-mêmes, mais aussi contre les pays européens qui, malheureusement, se sont alignés sur la politique hostile des États-Unis envers la République islamique d'Iran, mais aussi la Russie.
Oui, M. Luc Michel a tout à fait raison de rappeler l'émergence de gaz de schiste et de pétrole de schiste aux États-Unis, qui ont des conséquences environnementales désastreuses sur place et dans le reste du monde. Moi, je voudrais rappeler que cette guerre des hydrocarbures, elle date même de plus beaucoup plus longtemps. Par exemple, en Iran, la Russie tsariste et l'Angleterre se sont partagées en 1907 des zones d'influence en Iran. La Russie avait le pétrole de Bakou au bord de la Caspienne et était un peu moins intéressée. Par contre, les Anglais qui développaient leur flotte pour le contrôle des routes marchandes et contrôle de la défense de leur colonie indienne étaient très intéressés à avoir du pétrole non loin de l'océan Indien. Et ensuite, les Américains ont pu un peu prendre la place du Royaume-Uni dans la péninsule arabique en signant des accords avec les Saoudiens. Et du coup, il y a une certaine, depuis très longtemps, une domination de l'Angleterre et du Royaume-Uni et des États-Unis pour ce contrôle du marché des hydrocarbures. Et d'ailleurs aussi à Londres, avant la guerre de 14, en 1912, à Londres a été créée la Turkish Petroleum Company, qui n'avait de Turc que le nom, avec quelques actionnaires turcs aussi, un peu plus ou moins discrets. Mais l'intention très tôt de l'Angleterre était de contrôler tout le pétrole abondant du Moyen-Orient, qui était connu par de plusieurs études géologiques dans les années 1870, 80, 90, et aussi au début du siècle, au moment où les Allemands étudiaient le tracé du chemin de fer Berlin-Bagdad, en Mésopotamie et aussi en Turquie. Donc c'est une vieille histoire. Il faut bien rappeler que le marché des hydrocarbures, ce sont les plus gros marchés du monde de commodités, de produits. Et c'est aussi les marchés qui rapportent le plus, qui ont le plus de fluctuations à cause des spéculations, à cause du contrôle des robinets. Ici, le Venezuela, un jour l'Iran, un autre jour ou quelques décennies l'Irak. Donc c'est vraiment l'enjeu fondamental. Et il est donc important que s'opposent à cet impérialisme anglo-saxon des forces plus indépendantes de la Russie, de la Chine, de l'Iran et des pays arabes démocratiques, ou qui peuvent le redevenir, et qu'ils s'allient aussi à l'Europe pour cela, pour qu'à la fin que l'Europe soit moins dépendante des États-Unis et des Anglo-Saxons pour son indépendance énergétique, pour sa solidité énergétique.
Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition du débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Bonjour et merci d'avoir rejoint notre émission de cette semaine Afrique Économie. En Mozambique, la Banque mondiale prévoit une croissance de 5,7% en moyenne par an entre 2022 et 2024. Le démarrage prochain de la production de gaz naturel liquéfié devrait permettre un rebond de la croissance économique du pays d'Afrique australe à moyen terme. Après une contraction de 1,3% en 2020 et une croissance atone de 2,2% en 2021, l'économie du Mozambique devrait rebondir à moyen terme. Dans un communiqué publié le 23 juin, la Banque mondiale a estimé que le pays au sous-sol riche en ressources naturelles devrait enregistrer une croissance économique annuelle moyenne de 5,7% durant la période 2022-2024 grâce notamment au démarrage de la production de gaz naturel liquéfié dès l'année en cours et au redressement de la demande. Le démarrage de la production du GNL au niveau du projet offshore Coral et la reprise attendue d'autres projets de GNL devraient contribuer à stimuler la croissance de l'économie mozambicaine, a précisé l'institution. Exploité par le groupe italien Eni, le projet Coral traite le gaz naturel provenant des ressources du bassin de Rovuma au large des côtes du Mozambique. Il devrait entrer en production au second semestre 2022. La Banque mondiale a par ailleurs indiqué que le plan de financement triennal de 456 millions de dollars, qui a été approuvé en mai 2022 par le FMI en faveur du Mozambique, et l'appui budgétaire promis par d'autres partenaires du pays contribueront à soutenir la reprise économique. Elle a cependant averti que certains risques pourraient peser sur la croissance de l'économie mozambicaine, dont la hausse de la facture des importations consécutives au conflit russo-ukrainien, une possible hausse des contaminations par le Covid-19 et l'insurrection qui secoue la province septentrionale de Cabo Delgado. Occidentale, l'Éthiopie perd sa participation de 19% dans le port de Berbera au Somaliland. Peu de temps après l'arrivée des soldats américains au Somaliland, Addis Abeba, qui a besoin d'un accès à la mer autre que ceux de Djibouti et de l'Érythrée, n'a pas encore commenté la décision des autorités du Somaliland qui a consisté justement à faire perdre à l'Éthiopie sa participation de 19% dans le port de Berbera, et ce en raison de dépassement de la date limite du versement de sa contribution financière à la construction de cette infrastructure portuaire, annonçait le ministre des Finances du Somaliland, Saad Ali Shire, un prétexte évidemment. L'Éthiopie n'a pas réussi à remplir les conditions nécessaires pour acquérir sa participation avant la date limite. Elle n'a donc pas de participation maintenant, a déclaré le ministre, indiquant que l'une de ses conditions était le versement d'une contribution destinée à financer la construction du port. Addis Abeba s'était associé en 2017 à l'opérateur aéroportuaire émirati Dubai Port Board et au Somaliland pour construire le port de Berbera. Pays enclavé, l'Éthiopie cherchait alors à faire de Berbera une véritable alternative au port d'Assab en Érythrée et surtout à ceux de Djibouti, dont il reste fortement dépendant pour son commerce international. En vertu de l'accord conclu entre les trois partenaires en 2016, puis ratifié en 2017, DP World détient 51% des parts du port de Berbera, tandis que le Somaliland et l'Éthiopie possèdent respectivement des participations de 30% et de 19%. L'opérateur portuaire émirati s'était engagé à investir jusqu'à 442 millions de dollars durant la première phase de la construction du port, alors que le gouvernement éthiopien était censé construire une route de 260 km reliant Berbera à sa frontière. Le gouvernement éthiopien n'a pas encore commenté officiellement la décision de l'annulation de sa participation au port de Berbera annoncée par le Somaliland. Située sur la rive du détroit de Bab el-Mandeb, une voie par laquelle transite 40% du trafic maritime mondial, le Somaliland, État autoproclamé, cherche à jouer un rôle de premier plan dans la liaison maritime entre la Corne de l'Afrique et le Moyen-Orient, et ce, à l'instigation des États-Unis. Le GNL sénégalo-mauritanien pourrait servir de tremplin aux deux pays pour répondre à la demande de l'Union européenne. En ces temps de crise économique et énergétique, le futur retrait d'Europe de l'offre gazière de la Russie offre la possibilité à des exportateurs traditionnels, mais aussi aux nouveaux arrivants sur le marché, d'obtenir des parts de marché importantes sur ce marché. Dans une interview accordée le jeudi 23 juin à Reuters, le ministre mauritanien de l'énergie, Abd Ould Mohamed Salah, a déclaré que le GNL qui sera produit dans le cadre du projet Greater Tortue Ahmeyim pourrait servir de tremplin à l'Afrique de l'Ouest pour répondre à la demande croissante de gaz en Europe. Ceci alors que le groupe D27 envisage de tourner le dos à la Russie qui assurait jusque-là plus de 40% de leurs besoins en gaz. Pour le dirigeant, la demande urgente en Europe pourrait stimuler les prix du gaz dans la région au cours des prochaines années, ce qui deviendra une opportunité qu'il faut saisir. Il ajoute qu'étant donné que le vieux continent maintient son plan d'aboutir à un usage quasi exclusif du gaz et des énergies renouvelables, en 2030, les producteurs doivent saisir l'opportunité d'exporter. Les prix récents ont ouvert la possibilité pour la Mauritanie, le Sénégal ainsi que d'autres pays africains d'exporter plus de gaz vers l'Europe. L'Europe a besoin de diversifier ses ressources d'approvisionnement, donc cette opportunité fantastique, nous ne devons pas la manquer, a-t-il affirmé. Le projet Greater Tortue Ahmeyim, LNG, devrait entrer dans sa phase de production second semestre de 2023. Il devrait permettre la production de 2,5 millions de tonnes de GNL par an à partir de réserves de 15 milliards de pieds cubes de gaz naturel situés à cheval sur les frontières maritimes de ces deux pays. La Mauritanie et le Sénégal ont décidé en 2018 d'exploiter ensemble les ressources gazières de la région offshore de leurs frontières. Puis sachez également qu'au Cameroun, le port de Douala modernise son terminal à conteneurs pour renforcer la sécurité des opérations. 30e sur 45 ports africains classés par la Banque mondiale et Global Market Intelligence dans le dernier indice mondial de performance des ports à conteneurs, le port de Douala doit relever de grands défis infrastructurels. Le port autonome de Douala a lancé les travaux de remise à niveau de son terminal à conteneurs, à en croire le PAD. Cette remise à niveau est nécessaire du fait de l'état de décrépitude avancée de l'infrastructure. PAD, c'est le port autonome de Douala, effectivement. Les travaux devront durer 2 mois pour un coût de 473 millions de francs CFA. La superficie concernée par la rénovation est de 10 000 mètres carrés. Après cela, la régie de terminal à conteneurs, RTC, entamera de nouveaux travaux sur une superficie de 38 000 mètres carrés afin de rénover un total de 48 000 mètres carrés, l'objectif étant d'améliorer la fluidité et la sécurité des opérations sur le parc. Par ailleurs, il est prévenu au terme de ces travaux de mise à niveau la construction de nouveaux quais, un nouveau yard, ce qui permettra effectivement au terminal d'accueillir un volume plus important de marchandises. Dans l'indice mondial de performance des ports à conteneurs, CPPI, publié fin mai dernier par la Banque mondiale et Global Market Intelligence, Le port de Douala occupe le 30e rang en Afrique sur 45. Il est classé juste après le port de Tin Can Island au Nigeria et devant celui de On au Nigeria également. La gestion du terminal conteneur du port de Douala a été nationalisée depuis 2020 avec la création de RTC, rappel investir au Cameroun. Ce mandat court jusqu'en 2024.
Thank you.